Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux L.
Bonjour à toutes et tous. Depuis 1789, il s'en est passé des choses dans notre pays. Bien sûr, vous le savez. Mais il s'en est passé aussi des choses dans l'aristocratie et dans la noblesse. Et on va s'apercevoir que finalement, jusqu'à nos jours, eh bien, il s'y passe encore beaucoup de choses, que beaucoup d'événements voulus ou non voulus ont une incidence encore jusqu'à nos jours. Pour nous parler de ce sabordage de la noblesse, eh bien, un spécialiste, un docteur en histoire, j'ai le plaisir d'accueillir M. Fadi Elhage. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour votre livre « Le sabordage de la noblesse » aux éditions Passé, Composé. Alors, tout d'abord, je le disais, vous êtes docteur en histoire, vous avez fait, si ma mémoire est bonne, une biographie sur le duc de Vendôme, également un livre sur la succession d'Autriche. Je me souviens que ça n'était pas simple, mais parlez-nous encore un petit peu de Fadi Elhage. Que fait-il et que veut-il et où va-t-il?
Alors, je suis docteur en histoire depuis l'année 2010.
Oui.
J'ai fait une thèse sur les maréchaux de France à l'époque moderne, donc de 1515 jusqu'à la Révolution.
Oui.
Elle a eu le prix d'histoire militaire en 2011 de la part du ministère de la Défense.
Oui.
Et elle a été publiée aux éditions Nouveau Monde en 2012. Et la même année, en 2012, j'ai publié une première biographie sur le maréchal de Villars aux éditions Belin, le maréchal de Villars, l'infatigable bonheur.
Oui.
Et après, j'ai passé à différents thèmes qui m'étaient assez familiers à titre personnel et aussi au gré des inspirations. Donc, ça m'a pris quelques années de travail, notamment une étude sur un écrivain inconnu et qui a fini emprisonné le chevalier de Bellerive, un pauvre diable, au XVIIIe siècle, aux éditions L'Harmattan, en 2015. Suivi en 2016 donc d'une biographie du maréchal Faber, aussi aux éditions L'Harmattan, donc durant cette année 2016, ainsi qu'une étude sur Napoléon en tant qu'historien, Napoléon historien, aux éditions SPM, aussi en 2016. C'est le calendrier qui a fait un peu ce hasard, et il y a eu la biographie du duc de Vendôme aussi en 2016, avant le livre sur la guerre de succession d'Autriche aux éditions Economica en 2017, et donc ce nouveau livre, Le sabordage de la noblesse, qui est apparu au début du mois de mars.
Alors, dans votre livre, à un moment donné, vous dites que ce livre est né d'une conversation avec l'un de vos amis, Laurent Héninger, en 2016. Et que suite à ces quelques mots, vous dites que la construction, le fait de venir au sujet n'a pas été simple, mais c'est suite à cette discussion que vous avez décidé de faire ce livre. Expliquez-nous cela.
Alors, en fait, c'était l'été 2014.
Oui.
J'étais en province lors d'un événement familial et mon ami qui justement travaille beaucoup sur des questions militaires, m'avait appelé pour quelque chose sur la guerre de 7 ans. Il m'avait posé une question et je lui avais dit qu'il y avait quand même une défaillance de la noblesse à l'époque qui expliquerait certains déboires militaires. Et alors, il avait souhaité que je développe un peu plus. Il avait eu certains contacts qui ont fait que j'avais eu une première approche, on va dire, éditoriale, qui a été brève et bon, qui n'a pas abouti, mais finalement le projet a pu arriver chez Passé Composé, et donc j'étais très content de sa publication. Alors si l'ouvrage a été quand même difficile à concevoir, dans la mesure où au début le sujet quand même paraît impressionnant, puisque ça pose des questions profondes sur le déroulement de grands événements qu'on pense toujours bien connaître, alors qu'il y a beaucoup d'éléments sous-jacents.
Oui.
Aussi, il a fallu énormément de lectures pour aussi appréhender une vision propre à la noblesse, c'est-à-dire qu'il fallait voir le constat aussi de membres de cet ordre, puisque très souvent, on a des visions soit extérieures, soit même bien postérieure et donc qui aboutissant à certaines vulgates. Mmh. Et là, j'ai voulu aller au-delà de certaines vulgates, c'est-à-dire le méchant noble qui écrasait le roturier, alors que finalement, on voyait qu'il y avait des dissidences, des dissensions politiques et même au sein de la noblesse. Mmh. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le voir du côté même de cette noblesse.
Mmh. Alors, le titre, hein, c'est très fort, le sabordage de la noblesse, c'est vrai que ça fait un peu frémir, je vous l'avoue, mais on s'aperçoit, moi j'ai presque envie de vous dire, en lisant votre livre, que c'est quelque part de l'auto-sabordage, parce qu'il y a de la corruption, une forme de dictature intellectuelle, d'esprit qu'ils pensent être supérieur par rapport au reste du peuple, un potentisme, dirais-je, exacerbé. Tout ça, vous l'expliquez très bien. Et alors, on a aussi tendance à faire l'amalgame entre la noblesse et l'aristocratie. Expliquez-nous cela.
Alors, l'aristocratie, c'est vrai, a essentialisé la noblesse et c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il y a il y avait une grande diversité de la noblesse, du petit noble de province qui a du mal à engranger des revenus, à celui qui est plus près, on va dire, de Paris ou de la cour, mais aussi qui peut avoir des difficultés financières. Et il y a en fait l'aristocrate qui, en revanche, peut être proche du pouvoir, a aussi de quoi en fait mener un certain train de vie, et qui se met dans la position, finalement, comme dans son dans l'étymologie, mm-hmm. donc dans la position des meilleurs. Mm-hmm. Et après, cette notion de meilleur, le problème, c'est que, bien souvent, quand il y a des difficultés politiques, économiques, ou militaires ou sociales, c'est que cette position de meilleur peut être contestée, puisque, finalement, on a des aristocrates donc, qui se posent comme meilleurs, mais qui au final, après, sont critiqués puisqu'ils n'assurent plus leur vocation.
Alors, dans noblesse, bien évidemment, il y a noble, et alors on peut l'étendre non pas forcément aussi à la personne physique de par sa position sociale, mais aussi, on peut penser aussi à un esprit et à un état d'esprit. Et en vous lisant, on s'aperçoit que la noblesse, en ce cas-là, est loin de ses vertus d'esprit noble et tout à fait désintéressée.
C'est le problème du XVIIIe siècle. Il y a une crise de l'identité nobiliaire, il y a une crise des vocations où on voit que même des vocations essentielles comme le service du roi, de donner finalement l'impôt du sang, pour reprendre l'expression d'un livre de mon directeur de thèse, oui. Hervé Drillon, eh bien on voit qu'il y a justement une défaillance à ce niveau. On préfère finalement soit se faire une carrière et qui, si elle ne décolle pas, on tourne le dos et puis on cherche quelque chose de plus lucratif. Oui. Soit il y a beaucoup de frustration, il y a aussi des querelles autour du mérite qui est une notion aléatoire. Mais en tout cas, il y a une grande impression que l'esprit de service commence à être défaillant. Mm.
Alors, on s'aperçoit aussi qu'au sein même de cette noblesse, il y a des tensions, des querelles intestines qui peuvent remonter à des années, à des centaines d'années, puisqu'ils réagissent et agissent par héritage. On s'aperçoit qu'il y a peu de, dirais-je, d'amitié ou d'amour dans ces relations. Tout n'est qu'intérêt. Il faut se positionner au mieux. Les enfants, on fait des enfants, mais parce que il faut l'héritage, parce qu'il faut poursuivre le chemin de cette noblesse. En fait, c'est terrible parce qu'en vous lisant, on se dit mais on a été dirigé, le peuple a été dirigé, porté par des gens qui eux-mêmes ne s'entendaient pas et se haïssaient pour beaucoup.
Alors le problème là en devient même politique puisque il y a des formes de gouvernement qui finalement peuvent paraître cycliques. C'est ce que j'ai essayé de démontrer en m'appuyant sur la théorie de l'anacyclose mise en valeur par un auteur antique comme Polybe. Oui. C'est que il y a d'abord, on va dire, il peut y avoir un consensus Mais après, la machine se grippe forcément avec l'usure du pouvoir, et puis après, avec la recherche non pas de l'intérêt général, mais des intérêts privés. Et c'est là l'un des points majeurs, c'est la noblesse, une partie de la noblesse en tout cas, qui paraît, parce que ce n'est pas forcément avéré, on va dire, puisque souvent, une rumeur ou une opinion, ça peut avoir plus de poids qu'un fait, on va dire, dit réel,
oui. Authentique. Authentique.
Voilà, un peu authentique. Et donc, on peut avoir l'idée qu'il y a l'intérêt général qui passe derrière l'intérêt particulier.
Au second plan.
Voilà, d'où la chute même de certains personnages dans l'opinion. Pour reprendre le maréchal de Villars que je connais bien, il était perçu comme l'un des sauveurs de la France, l'un des sauveurs de l'armée. Et donc, quand il meurt, on a d'abord un immense désarroi. Puis quand on découvre qu'il avait quand même beaucoup rançonné en Italie et que qu'il préférait finalement continuer à s'enrichir à 80 ans passés au détriment finalement de l'intérêt militaire, il y a eu une immense déception qu'on retrouve dans certains témoignages.
Oui. Alors à contresens de Villars, il y a aussi des personnages, un personnage de l'histoire que j'aime beaucoup, c'est Maurice de Saxe, qui a fini par être un grand héros hein, sous Louis XV. Il a combattu, il a été extrêmement décoré. Son cercueil a été transporté à Strasbourg sous des vivats, accompagné vraiment d'une armée de tous ses compagnons encore vivants. Donc l'histoire de la noblesse est capable de vilipender ces personnages ou de les porter, de les porter au plus haut état de l'histoire sans forcément de raison valable. Tout dépend, j'ai l'impression, du sentiment premier que l'on a sans forcément qu'il y ait eu des actes. Alors Maurice de Saxe, effectivement, a quand même été un grand soldat, mais ça n'a pas été que ça. Ça a été aussi un homme qui a bafoué les femmes, qui n'a pas reconnu ses enfants. C'était quand même un grand libertin aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est contradictoire,
oui, tout
ça. Hein ?
Tout à fait. Après, c'est pour ça que l'idée de décadence reste une idée puisque dépend de l'angle sous lequel on considère tout ça. C'est-à-dire que tout dépend aussi des attentes selon les circonstances.
Mm-hmm.
Souvent, on pardonnait plus, on va dire, ce libertinage à un général en temps de paix, puisqu'on n'a pas besoin formellement de lui. Mais si, en temps de guerre, on voit qu'il a une... Il est un peu dans la licence ou dans une sorte de laisser-aller, et qu'il y a une difficulté militaire qu'il rencontre, on peut y faire porter le chapeau plus facilement. C'est-à-dire qu'il y a un peu un jeu de balance. C'est que tant que le service est fait, tant que l'intérêt général est assuré, on est beaucoup plus indulgent.
C'est vrai.
C'est comme aussi quand on disait à Louis XIV, le maréchal de Villars fait bien ses affaires durant la guerre de succession d'Espagne,
oui.
Et il dit oui, mais il fait bien les miennes et celles de l'État.
Oui, bien sûr. Oui. Mais ça a été un peu le... Alors là, on quitte un peu la noblesse, mais malgré tout, il en est entouré. C'est aussi un peu le problème de Napoléon, hein, acclamé pendant des années, et puis une fois que le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire qu'après, on l'a accusé d'être dictateur sans regarder vraiment l'histoire et les gens qui l'entouraient aussi.
Ah, mais ça, c'est un grand classique.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un peu, on va dire, la vanité
oui.
de la gloire.
Tout à fait.
On a la gloire de son vivant.
C'est vrai.
Et puis quand on disparaît, il y a une vague de désarroi.
Mmh.
Et puis après, on passe à autre chose. C'est très souvent comme ça. C'est un peu comme l'expression les indispensables sont tous au cimetière.
C'est ça. Eh bien, écoutez, j'espère que ce qui va être indispensable, justement, c'est cette pause musicale. Et nous nous retrouvons tout de suite après.
Thank you.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Fadi Elhage pour son livre Le sabordage de la noblesse aux éditions Passé Composé. Alors on s'aperçoit qu'évidemment, on va dire que les beaux jours de la noblesse dès 1789 va se retrouver effectivement un petit peu mal et les années qui ont suivi vont le prouver, mais également je dirais les siècles, parce que jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit, c'est les difficultés dont vous parlez, cette dictature, ce potentisme, cette vanité, cet orgueil, ce sentiment de supériorité par rapport aux autres, subsiste encore.
Oui, c'est vrai, mais ça c'est le lot, on va dire, de tous les puissants d'un jour ou les puissants d'une décennie.
Alors, dans le sabordage de la noblesse, moi je parlais d'auto-sabordage, on a le sentiment aussi, en vous lisant, qu'aucune leçon n'a été tirée des événements qui ont eu lieu contre eux.
Alors, c'est vrai que c'est un peu le principe de la citation de Napoléon, ils n'ont rien oublié ni appris, qu'il avait dit à son retour après la première Restauration.
Oui.
C'est-à-dire que il peut y avoir des scandales émanant de personnages nobles. Mais quand les autres ne sont pas concernés, ils n'ont pas l'impression d'être responsables de la situation. Mais quand le scandale est assez lourd, les circonstances de crise commencent à susciter des amalgames, à faire des... Donc comme on amalgame tout ça, eh bien, on commence à faire des reproches plus globaux. Mais très souvent, c'était la noblesse, on va dire, de cour, ou plus ou moins aussi du côté de Paris, qui était accusée. Et après, on avait des extensions plus globales. Donc, c'est finalement les actes de quelques-uns qui, après, pouvaient être reprochés au plus grand nombre.
Alors, on s'aperçoit aussi que je dirais les intellectuels et le clergé surtout n'est pas étranger aussi à tout cela, parce que les nobles s'entouraient d'intellectuels. On sait que la religion était très importante à ce moment-là, puisque Dieu, le roi était fait par Dieu. Mais justement, est-ce que le verre n'était pas également dans la pomme?
Alors, d'une certaine manière, je dirais oui, mais aussi je pourrais répondre par la négative, puisque après c'est une question de gestion politique. C'est-à-dire que c'est quand il y a une recherche d'équilibre, de consensus, on peut consolider, on peut éviter certaines situations problématiques. Et l'accélération, on va dire, de cette image négative est venue justement au moment où on a, c'est vrai, un côté plus éclairé. On commence à être sensibilisé à certaines choses, notamment sur les droits du Parlement à exprimer des remontrances. Aussi, quand on voit qu'il y a des personnes qui cristallisent des haines, Marie-Antoinette a quand même cristallisé beaucoup de haines.
J'y pensais à elle, oui.
Voilà, et donc finalement, il y a souvent des personnages déclencheurs, malgré eux par moment, même bien souvent malgré eux, puisque ce n'est pas forcément certain qu'ils soient rendus compte de certaines choses, et ces personnages déclencheurs suscitent justement après une sorte d'effet domino.
Tout à fait. Au fond, là, on le sait, la bourgeoisie n'est pas étrangère à tout cela, puisque il fallait malgré tout monter le peuple, diriger le peuple contre cette noblesse qui prenait la place, qui avait tous les pouvoirs, tous les avantages, tous les privilèges. Mais la bourgeoisie elle-même, c'était une forme d'aristocratie aussi, mais sans vouloir avoir la noblesse dans le titre, j'entends, bien évidemment.
Alors, justement, la bourgeoisie, pour moi, ce sont des personnes qui, justement, aspirent à devenir nobles et qui étaient victimes d'un plafond de verre. Tout comme la petite noblesse. La petite noblesse, à la fin de l'époque qu'on appelle l'Ancien Régime, aussi commençait à subir des blocages, c'est-à-dire avec notamment le retentissement qu'avait pu avoir et qu'on a en fait dans l'historiographie du fameux Édit de Ségur de 1781 qui impliquait 4 degrés de noblesse pour devenir officier. Mm-hmm. Donc ça incluait les anoblis, donc les anciens bourgeois qui deviennent anoblis, qui très souvent d'abord étaient de la petite noblesse. Et aussi, comme la petite noblesse était désargentée, elle avait du mal à pouvoir donc assurer le service du roi. Et les bourses royales ont beaucoup servi à des membres de la petite noblesse, Bonaparte en premier,
oui.
Puisque finalement, la bourgeoisie avait aspiré à cette montée sociale. Et dès qu'il y a un blocage social, il y a situation de crise. On l'a vu notamment même au XVIe siècle, c'est-à-dire que les guerres de religion au XVIe siècle en France et les guerres de la Ligue ont aussi été motivées par un blocage social, tout comme les révoltes nobiliaires qu'il y avait eu au XVIIe siècle. Dès qu'il y a blocage social, c'est là qu'on a situation de crise, de révolte, etc. Et c'est ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle. Et on constate d'ailleurs que finalement, la Révolution a permis l'émergence de cette petite noblesse, puisque Bonaparte y appartenait.
Oui.
Et c'est elle qui finalement se positionne avec bien sûr une partie de la bourgeoisie qui aussi finalement peut avancer, puisque comme le haut a été, on va dire, démonté,
oui.
Eh bien, la place était libre.
La place était libre, oui. Alors, votre livre a demandé, parce que c'est très bien documenté avec moult références, on laisse le soin aux auditrices et auditeurs de ces deux ailes, délivrez-vous de le découvrir, mais ça a dû vous demander énormément de recherches, hein. Il y a beaucoup d'annotations, vos repères sont assez étendus, ça vous a demandé combien de temps de travail? Parce que moi, en lisant le livre, je me suis dit, mais il y a tellement d'annotations, c'est quand même très pointu, c'est une grande recherche.
Alors j'ai un rythme de travail qui est assez intense, qui est propre à moi-même, mais toujours j'ai une phase de réflexion au départ qui peut me prendre parfois de 6 mois à 1 an.
Oui.
Ensuite, pour la documentation, il y a des éléments que je connaissais déjà par rapport à ma thèse,
oui.
Donc que j'ai pu récupérer, mais après il y a aussi beaucoup de documentation supplémentaires et même la recherche de documents un petit peu inédits, parce que faut toujours essayer de lorgner vers des documents inédits pour,
oui,
essayer d'apporter quelque chose de différent.
Tout à fait.
Et ça peut prendre aussi 2 ou 3 ans, et même quand on trouve un autre document alors qu'on a déjà commencé l'écriture pour modifier le texte,
oui,
ça arrive souvent. Donc finalement, cet ouvrage, il a pris entre 3 et 4 ans pour de sa conception à sa finalisation.
J'imagine. Alors, moi, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, Fadi El Hadj, où en est notre noblesse française?
Alors,
vaste sujet.
Alors, ça, c'est une bonne question, puisque il est vrai qu'on retrouve des membres de l'ancienne noblesse,
oui,
en France. Même il y en a quelques-uns que je connais de près ou de loin.
Mm-hmm.
Pour moi, je trouve que il y a un peu le côté, il y a comme un renoncement, on va dire, à l'appartenance à une forme de pouvoir.
Oui.
Mais justement, c'est qu'il y a la conservation d'une importance patrimoniale historique.
Puisque, c'est vrai.
Notamment l'ancienne noblesse avec ses châteaux, ceux qui possèdent encore les châteaux aussi, qui ont des archives, qui ont des tableaux, qui ont encore certains monuments, eh bien, en fait, ils possèdent des traces d'histoire. Et il ne faut pas les négliger, au contraire, et c'est une mission essentielle justement que de défendre ce patrimoine. Et aussi, si un livre même comme le mien pourrait intéresser les gens, de susciter de l'intérêt pour des châteaux et pour justement ces éléments subsistants de la noblesse française, ce sera parfait.
Il y a une forme de, au travers de ces monuments, de ces us et coutumes qui existent encore, parce qu'effectivement, je suis comme vous, j'en côtoie et connais quelques-uns. C'est une forme aussi de devoir de mémoire, parce que quoi qu'il se soit passé ou la façon dont ils pensent ou agissent, malgré tout, ça fait partie de notre histoire aussi, de notre patrimoine intellectuel et immobilier, dirais-je.
Il importe de considérer tout cela, en effet, sans jugement, sans préjugé.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a très souvent même l'image d'un 18e siècle qui serait complètement débauché, un lupanar généralisé, comme on le voit dans certains films ou même certains clips.
C'est vrai.
Et ça fausse l'image du 18e siècle, puisque quand même, à côté de certains nobles, on va dire, qui ont suscité le scandale, il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus réflexifs.
Bien sûr.
Qui avait eu moins l'avantage, je pense notamment à Vauvenargues, que j'apprécie énormément.
Mmh.
Et finalement, c'est que la noblesse, c'est comme toute société humaine, tout groupe, c'est qu'il y a de tout. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de s'y intéresser, puisque la noblesse fait partie, fera toujours partie de l'histoire de France, et aussi comme acteur majeur, c'est-à-dire que ce n'est pas négliger les roturiers que aussi d'évoquer la part de la noblesse, notamment dans l'histoire de l'État.
Mmh.
Donc, finalement, il faut encourager l'intérêt pour cette noblesse, c'est-à-dire, forcément, il y a un point de départ, on va dire, en surface, où on voit les châteaux, les beaux tableaux, mais après, il faut toujours essayer de se demander comment, pourquoi, et connaître finalement de plus près les personnages, leurs environnements, leurs actions, et justement sans les juger, parce que pour moi, la bonne histoire, c'est celle qui fait vraiment de l'étude scientifique, donc de l'étude historique, et non pas, on va dire, de l'idéologie.
Tout à fait. Alors, je suppose que vous avez, j'espère en tout cas, vous avez de nouveau un projet d'écriture. Un docteur en histoire doit toujours fourmiller d'idées et d'envie et de besoins.
Alors, moi je sais juste que quand je ne pourrai plus écrire, c'est que je ne serai plus de ce monde.
Bah voilà, alors là tout est dit. Donc je sais qu'on vous retrouvera un jour à ce micro pour un nouveau livre alors.
Ah, ce sera avec très grand plaisir.
Vous avez un projet en tête ?
Oui, alors j'ai toujours plusieurs projets en tête, puisque notamment dans ce livre, dans le sabordage, j'évoque un personnage, même qui est un peu dans la conclusion, Maupinot de la Chapotte, un ancien officier.
Oui.
Et étant donné que je travaille pas mal sur ces archives, dont une partie est inédite, je pense essayer de faire un travail sur ce personnage et donc sur sa précieuse correspondance. Mais aussi actuellement, je suis en train de travailler sur une thématique évoquant l'accession au trône d'Henri IV et les circonstances plus compliquées qu'on le pense.
Oui.
Donc c'est pour ça que je pense que ça pourrait beaucoup intéresser vos auditeurs.
Ah mais ça, et moi la première, parce que c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup et que je ne connais pas trop mal, ma foi. Voilà. En tout cas, ce sera un grand plaisir d'en discuter avec vous. Eh bien, le sabordage de la noblesse aux éditions Passé Composé, c'était avec Fadi Elhadj. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à une prochaine fois et rendez-vous avec Henri IV alors.
Je l'espère bien.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.